Et au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, un voyage dans le cerveau de Nathalie Dessay pour voir ce qui se passe dans la circuiterie des chanteurs. Une exploration du kilo pour comprendre ce qu'on trouve dans ce poids. Et puis comment vivre avec une maladie fardeau comme le vitiligo qui est une dépigmentation de la peau. Vos messages, vos questions dès maintenant sur franceinter.fr. Et puis à la une de la science, Axel Villard, encore une première dans l'espace autour d'une planète naine cette fois-ci.
Oui, la sonde Dawn de la NASA est en ce moment même en train d'accrocher l'orbite de Cérès dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, une occasion d'étudier le passé de notre système solaire que nous allons explorer avec nos invités et vos questions sur Twitter.
Voilà pour le sommaire de cette tête au carré, réalisée par Violaine Ballet et qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin avec Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et un premier tour d'horizon avec les sujets dont nous allons parler tout à l'heure dans notre club. Nathalie Dessay-Hervé Platel, bonjour.
Bonjour.
La chanteuse et le neuroscientifique, samedi 14 mars, donc va débuter à Radio France un cycle de conférences, musique et cerveau. Nathalie Dessay, vous serez le grand témoin de ce premier rendez-vous. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les circonvolutions de votre cerveau lorsque vous chantez?
Non, déjà je ne sais pas ce qui se passe quand je ne chante pas, mais alors quand je chante,
c'est
encore moins probablement. Oui.
Donc vous y allez en fait pour témoigner et pour avoir des réponses à vos questions.
Oui, c'est surtout ça. Moi, j'y vais un petit peu comme une béotienne, c'est-à-dire, moi aussi, je veux savoir ce qui se passe dans mon cerveau.
Ouais. Donc, vous serez un objet de science, finalement.
Absolument, je serai un cobaye.
Bon, vous connaissez mieux vos cordes vocales que votre cerveau, alors, en gros.
Probablement. Hein. Mais l'appareil phonatoire, oui.
Ouais. Hervé Platel, il y a des personnes qui n'entendent pas la musique. Vous en parlerez, entre autres. On parle d'amusie, c'est
on
ça
on n'y croit pas. Hein. On pense que tout le monde entend correctement la musique.
Oui, mais est-ce qu'ils ne font pas exprès?
Je pense pas, non, vraiment, véritablement.
Tout de suite l'accusation.
Non, parce qu'il y a des récalcitrants, des gens qui veulent pas penser comme les
autres. Mais ça a été la première question. Est-ce qu'il n'y a pas une sous-exposition à la musique dès l'enfance? Et en contrôlant ça, en définitive, non, on a vraiment des personnes dont on ne comprend pas. On comprend un petit peu mieux, mais qui, de manière très exceptionnelle, n'entendent pas du tout la musique, et on en parlera tout à l'heure.
Voilà, avec vous pour notre sujet musique et cerveau. Raled Ezzedine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue et vous êtes en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Vous êtes en train de publier une étude sur l'impact du vitiligo, cette maladie qui est donc une dépigmentation de la peau. C'est la première fois qu'une telle étude est réalisée?
Alors c'est la première fois qu'une étude sur le fardeau global de la maladie est réalisée. Il y a eu des études sur la qualité de vie spécifiquement, mais aucune sur le fardeau, qui est une notion qui est très relayée par l'OMS, qui comprend en même temps la dimension économique, la dimension de qualité de vie, et aussi la dimension psychologique de la maladie, qui va plus loin que la qualité de vie elle-même.
C'est la maladie dont était atteint Michael Jackson, hein, je crois. Hein.
Absolument, c'est la maladie dont était atteint Michael Jackson et dont sont atteints beaucoup d'autres personnes, puisqu'il y a à peu près 1% de la population mondiale qui est atteinte.
On en parlera avec vous tout à l'heure, vous nous donnerez les premiers résultats en tout cas de cette étude. Et puis Richard Davis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant au Bureau international des poids et mesures. Mercredi va sortir en salle le film 1001 grammes de Bent Hammer, dont l'intrigue tourne autour du poids réel du kilo. Est-ce qu'on cherche toujours à redéfinir le kilogramme aujourd'hui?
Oui, parce que la définition actuelle était mise en place en 1889, il y a longtemps. Et donc, on peut faire mieux maintenant, et on va faire mieux.
Et le kilogramme se trouve dans un coffre-fort aussi, c'est ça?
Oui.
Les talons?
Les talons, parce que c'est matérialisé. On va essayer de faire une définition qui n'est pas matérialisée, qui est disponible à tout le monde. C'est pas fermé à clé au pavillon de Breteuil, donc...
On en parlera avec vous dans quelques minutes. Voilà pour les sujets de notre club. Et bien sûr, j'attends les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Aujourd'hui dans l'espace, un rendez-vous avec Cérès, une planète naine.
5, 4, 3, 2, main engine start. 1, 0, and lift off of the Delta II rocket with Dawn.
Nous l'avons lancée en 2007 et elle a voyagé plus de 7 ans pour atteindre Cérès. À la fin de cette semaine, elle sera en orbite et ce sera la première mission à atteindre une planète naine.
Voilà, ils savent faire à la NASA. C'était la voix de Bob Mays le 2 mars dernier, le manager de ce projet Dawn, la sonde donc Dawn, qui est en ce moment même en train d'accrocher l'orbite de la planète naine Cérès, ce gros astéroïde qui est situé entre Mars et Jupiter et qui pourrait nous en dire long, en tout cas on l'espère, sur notre système solaire. Benoît Carry, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, à l'origine de découvertes importantes justement autour de Cérès. Et puis Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Benoît Carry, Cérès est passé donc par tous les noms depuis sa découverte en 1800. 1801, on l'a d'abord classée parmi les planètes, puis elle est devenue un astéroïde, maintenant c'est une planète naine. Certains ont même parlé d'une comète. Alors c'est quoi cet objet exactement ?
C'est intéressant. Je dirais, Cérès en fait est un petit peu le chaînon manquant entre les petites briques de construction du système solaire que sont les astéroïdes, et puis une planète comme la nôtre, comme la Terre, qui est formée, qui est là depuis 4 milliards d'années. Donc c'est en cela que Cérès est intéressant, parce que c'est un peu un arrêt sur image au moment de la construction d'une planète.
Ouais.
Et s'il est passé par tous les noms, c'est bien pour ça. Au début, quand on l'a découvert, il était tout seul, c'était une planète. On en a trouvé plein, c'est devenu astéroïde. Ensuite, planète naine, bon, c'était justement pour noter un peu cette particularité.
Ouais.
Et maintenant qu'on a découvert des geysers de vapeur d'eau, il y a une émission de gaz, et ça, c'est typique des comètes. Donc, effectivement, Cérès, il est tout.
C'est une sorte de melting pot. En fait. Il y a tout sur cet objet. C'est absolument incroyable. Si on parle d'astéroïdes, il fait vraiment partie des gros astéroïdes dans le système solaire.
C'est le plus gros astéroïde.
Voilà.
Il fait 1000 km de diamètre, à peu près.
D'accord.
Et c'est effectivement le plus gros entre Mars et Jupiter.
Voilà. Est-ce que vous pouvez tout de suite rassurer Nathalie Dessay qui craignait que cet astéroïde ne vienne frôler notre planète cet après-midi ? Non, c'est pas ça la une. Hein.
Non, c'est pas du tout ça la une. Il va pas nous tomber dessus. Celui-là, il va rester entre Mars et Jupiter. Pendant toujours.
Dans sa petite ceinture, en fait.
Dans sa petite ceinture.
Il est bien. Philippe Hénarejos, on aura donc la confirmation dans les heures à venir de la réussite de la satellisation de la sonde Dawn. Qu'est-ce qu'elle va chercher donc autour de ce gros caillou, 12 fois plus petit que la Terre ?
Elle va chercher à voir si c'est un corps rocheux, comme on l'a toujours cru depuis sa découverte, ou si c'est un corps un peu hybride à mi-chemin. On parlait tout à l'heure de est-ce que c'est une comète, est-ce que c'est un astéroïde ? Est-ce que c'est un corps hybride entre les comètes et les astéroïdes ? Il semblerait que oui, puisque tout à l'heure, Benoît Carrie disait « on a découvert des geysers », mais c'est lui qui a découvert les geysers,
hein,
faut le rappeler, c'était il y a un peu plus d'un an, avec le satellite Herschel. Et donc, ces geysers, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'eau, alors sans doute sous forme de glace, parce que Cérès est trop petit pour qu'il y ait une atmosphère avec une température agréable, pour qu'il puisse y avoir des lacs et des choses comme ça. Encore que certains modèles d'astronomes disent que peut-être à l'intérieur de Cérès, sous une couche de glace, il y a peut-être de l'eau liquide. Donc, on est très en haleine parce que la sonde se satellite en ce moment, mais depuis quelques temps déjà, depuis quelques semaines, elle s'en approche, elle prend des photos. Elle a pris les meilleures photos jamais obtenues, et sur l'une de ces photos, il y a quand même au cœur d'un cratère assez gros, un cratère d'impact, il y a deux points blancs énormes, étincelants.
Qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux ces derniers jours.
On se demande ce que c'est. Évidemment, on croit que ça peut être de la glace.
Ouais.
Mais
Benoît Carrie, il a la réponse.
Nous en dire
et ça, c'est le scoop de la tête au carré, parce que vous allez nous dire ce que sont ces deux tâches qui font parler tout le net du monde entier, hein, vraiment.
C'est une base spatiale alien.
Voilà.
Non, ça je ne sais pas. Alors effectivement, donc, comme disait Philippe, depuis janvier, on a des images à très haute résolution de la surface. Et on avait quand même déjà réussi, hein, depuis le début des années 2000, à prendre des images depuis la Terre, en utilisant les gros télescopes au sol et le télescope spatial Hubble. Et on avait vu qu'à la surface, bon, il y avait des taches sombres et claires, qui ressemblaient à des cratères. Et on avait effectivement identifié un endroit, une grande tache sombre, qui faisait à peu près 200 km de diamètre, avec au centre un point brillant, sans pouvoir identifier ce que c'était. Or, quelques années plus tard, quand Herschel, donc quand nous avons fait les mesures avec Herschel et que nous avons détecté la vapeur d'eau, nous avons réussi à identifier la source de ces jets de vapeur qui était exactement le même cratère avec le point blanc, qui correspond à celui avec les petites taches blanches vues par la sonde.
Alors, la conclusion.
Alors, la conclusion.
Ce sont les geysers ou pas ?
Alors, c'est le même endroit que les geysers. Maintenant, d'où vient cette glace ? Est-ce que c'est une comète qui est tombée sur Cérès et qui a déposé un gros tas de neige qui, petit à petit, se sublime ? Ou alors, il y avait de la glace en sous-sol et puis, ben, ça fait vraiment geyser, c'est-à-dire qu'elle remonte à la surface et elle est éjectée, il y a du dépôt sur le bord. Ça, on ne sait pas encore. Il va falloir attendre que la mission se déroule et étudie plus en détail cette région.
Vous, votre hypothèse, c'est quoi, s'il vous plaît, M. Carrie ?
J'aurais tendance à dire qu'il se passe quelque chose dans le sous-sol.
Qu'il
y a des réserves de glace dans le sous-sol. Alors, est-ce que c'est des poches très localisées ou quelque chose, façon un manteau de glace sur toute la surface ? Je n'en sais rien. Mais il y a d'autres petits indices. En fait, quand on regarde les cratères, pour l'instant, sur les images de la sonde, ce sont des cratères qui ont l'air d'avoir des bords très peu hauts. Alors, normalement, quand on lance un caillou sur un autre caillou, ça fait un gros trou. Et quand on fait ça sur de la glace, après, ça se re-remplit un peu.
Très bien.
Et donc, on a envie d'y croire.
Vous commencez à accumuler les indices, en tout cas. Axel.
Mais toujours sur le même sujet, je crois, Benoît Carrie, que vous avez fait des petits calculs pour l'émission, pour essayer de calculer la quantité d'eau qui s'échappe de Cérès et ce que ça représente à des échelles de temps très longues.
Alors, tout à fait. Donc, avec Herschel, on avait réussi à déterminer qu'il y avait 6 litres d'eau qui étaient émis par Cérès chaque seconde. On peut dire 6 litres par seconde, c'est beaucoup. Effectivement, en jouant un petit peu avec les chiffres, j'ai regardé à l'année, ça fait 200 000 tonnes. on peut dire c'est énorme.
Oui.
Et en fait, le trafic poids lourd en France, c'est 1000 fois plus tous les ans.
Ah, oui.
Donc en fait, vous êtes sur l'autoroute, vous comptez 1000 camions, et là, il y en a un, c'est de l'eau de Cérès.
Bon, Philippe et Narejos, on attend les premières images, là, justement, de oui, Cérès. Quand est-ce qu'elles vont arriver, là, alors?
Ça, j'attends comme vous que la NASA les relâche, mais je ne me fais pas de soucis. La NASA aime bien diffuser ces images, et dès qu'elle les a, ça ne traîne pas, généralement. Non, sur cette tâche blanche qui nous intrigue tous, quand même, on espère quand même que d'ici quelques temps, la sonde sera capable de prendre des images, par exemple, un petit peu en vue oblique ou à contre-jour, pour éventuellement voir les panaches qui sortent de cette tâche blanche. Ce serait une bonne confirmation. Ouais. Ça a déjà été le cas, par exemple, sur Encelade, qui est un satellite Saturne, où on a vu les geysers, les panaches s'échapper à l'espace. Bon, je crois savoir que Cérès est aujourd'hui même au plus loin du Soleil, donc c'est peut-être la période la moins favorable.
Il est à mi-chemin entre le plus proche du Soleil et le plus loin. Mais on va dire que quand on a découvert les geysers, on s'est rendu compte que quand Cérès était loin du Soleil, il n'émettait pas. Mm-hmm. Quand il se rapprochait, bah forcément il se réchauffait un peu puisque le Soleil chauffe. Et donc il émettait. Et là, pas de chance pour Dawn, est sur la partie externe.
Benoît Carry, comment vous expliquez que donc, cette sonde Dawn et cet objet, donc cette planète naine Cérès, passionne beaucoup moins le public que Rosetta et Chury, dont on a tellement parlé là, ces derniers mois, parce qu'on est quand même un petit peu dans le même cas de figure, non?
Alors peut-être qu'ici en Europe, on a eu plus vent de Churyumov, donc la comète qui en ce moment est étudiée par la sonde Rosetta de l'ESA, parce que les services de presse de l'ESA étant européens ont plus inondé les médias européens, et je pense qu'aux États-Unis ils parlent énormément de Dawn. Et de Cérès. Ils en ont énormément parlé il y a 2 ans, quand Dawn, la même mission, était autour d'un autre astéroïde, qui s'appelle Vesta. Et dans les médias américains, ils en parlaient énormément.
En tout cas, rendez-vous historique aujourd'hui, vendredi, entre la sonde Dawn et la planète naine Cérès, ou astéroïde Cérès, c'est comme on veut.
Ou comète.
Et évidemment, voilà, Benoît Carry, dès que vous aurez d'autres publications à son sujet, vous viendrez nous en parler dans La Tête au Carré. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Merci également à vous, Philippe et Narejos. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, toujours dans l'espace d'ailleurs, Curiosity est à l'arrêt. Le robot explorateur de Mars est en arrêt d'urgence depuis mercredi suite à un court-circuit lors d'un forage. L'anomalie a automatiquement entraîné l'arrêt de la manœuvre. Il faudra attendre le résultat des tests menés par la NASA pour connaître la gravité de l'incident et définir quand Curiosity pourra se remettre au travail. La péninsule du Yucatan aurait été ravagée par un énorme tsunami il y a 1500 ans. Une étude mexicaine et américaine a étudié des possibles traces laissées dans la roche par 2 voire 3 vagues géantes. À l'époque, les populations mayas de cette région ont pu être touchées. Aujourd'hui, plus d'un million de personnes y vivent. Cette découverte, du coup, pourrait amener les scientifiques à repenser la prévention des tsunamis au Mexique. Et puis pour finir, des murs anti-pipi dans le quartier de la Soif à Hambourg. Les habitants agacés par les fêtards qui urinent contre les murs ont trouvé une solution. Ils enduisent les murs souillés d'une peinture spéciale hydrophobe, une particularité physique qui redirige le flux d'urine directement sur les chaussures de l'arroseur. Mais cette peinture, hélas, coûte cher. Environ 500 euros pour repeindre 6 mètres carré.
Ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, Nathalie Dessay. À tout de suite. We'll be right back. Sparks à l'instant.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Kilo, vitiligo et cerveau, nos thèmes cet après-midi. On commence justement en parlant du cerveau et de la musique. Samedi 14 mars prochain, Radio France va donc accueillir à la Maison de la Radio un cycle de rencontres autour du cerveau et de la musique. Trois mouvements pour ce cycle. Nathalie Dessay, vous serez le grand témoin de ce premier événement. Ce sera au studio 105 pour parler du cerveau musicien. Vous êtes chanteuse, faut-il encore le rappeler, productrice à France Inter de classique avec Dessay tous les jours à 16h. Et puis Hervé Platel, vous êtes professeur de neuropsychologie, membre du laboratoire INSERM Neuropsychologie Cognitive et Anatomie fonctionnelle de la mémoire humaine. J'adore vos titres, hein, de labo, c'est toujours très agréable.
Il va bientôt être simplifié.
C'est vrai, merci pour nous. C'est à l'Université de Caen, c'est vous qui allez animer hein, ces trois journées, donc 14 mars, 13 juin et 12 septembre.
Tout à fait.
Peut-être qu'on peut préciser tout de suite que c'est évidemment ouvert au grand public, mais c'est avant tout peut-être quand même pour les professionnels.
Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est... Alors, faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que c'est Radio France, et en l'occurrence en les personnes donc d'Isabelle Cano et Juliette Pascal, qui est à l'initiative donc, de ce cycle. L'idée, effectivement, c'est de proposer une rencontre entre des scientifiques et des gens pour qui, dans leur pratique de tous les jours, donc musiciens, oui, intervenants auprès de publics en santé, etc., la problématique des liens entre musique et cerveau se pose. Donc, effectivement, c'est plus, faut plus le voir un peu comme une université d'été, mm-hmm, sauf que ce n'est pas en été.
Et ça dure jusqu'au mois de septembre. Nathalie Dessay, donc, ce sera pour le premier rendez-vous. Ensuite, le compositeur de jazz Antoine Hervé. Et puis Juliette, hein, qui seront les grands témoins. Est-ce que, Nathalie, vous avez l'habitude de regarder les publications? Parce qu'il y en a beaucoup hein, qui sortent sur le cerveau et la musique, très régulièrement. En tout cas, on s'en fait l'écho dans l'émission. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en lire certaines?
Non, pas du tout. Pas
donc,
du
vous
tout.
N'avez jamais prêté votre cerveau à la science pour l'instant?
Non.
Mais vous auriez pu, parce qu'on peut regarder dans votre cerveau. Est-ce qu'on fait chanter les gens avec des
IRM? En observant ce qui se passe. Ouais.
Alors, oui, c'est plus facile maintenant parce que c'est vrai que les techniques de neuroimagerie s'y prêtent pas toujours parce mm-hmm que ce sont des techniques qui sont très sensibles à tous les mouvements.
Ah oui, et donc, on est obligé de bouger un peu quand même. Quand
oui, alors maintenant on peut arriver à faire pianoter des pianistes dans un scanner, pareil pour les violonistes. Alors les chanteurs, on peut leur demander de chanter. Et alors ce qu'on voit dans tous les cas, notamment pour
alors,
les chanteurs...
qu'est-ce qu'on voit
professionnels par rapport aux instrumentistes. Alors les instrumentistes, évidemment, population donc de référence pour musique et cerveau, ce sont on peut les comparer les professionnels de la musique à des sportifs de haut niveau. Et ce qu'on observe dans leur cerveau, c'est tout à fait comparable à ce qu'on pourrait observer à des gens qui ont des niveaux de pratique exceptionnels. Donc peut-être que ce n'est pas applicable à tout à chacun. Mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'un chanteur, effectivement, qui acquiert un grand niveau d'expertise, eh bien, les représentations des régions du pharynx, donc de toute la chaîne vocale, etc., est particulièrement épaissie au niveau du nombre de neurones, c'est-à-dire qu'on a un épaississement cortical, comme de la même
au
manière...
Au moment du chant?
Ah non.
Ou tout
non,
le temps
non. Là, c'est quelque chose qui se structure, qui se met en place au fur et à mesure du nombre d'années de pratique.
Permanent.
Et c'est la même chose pour la représentation des doigts de la main gauche chez le violoniste, hein, qui devient de plus en plus importante dans son cerveau. Et pareil pour tous les instrumentistes, on peut décliner ça. Mais ce qu'on avait du mal avec ces techniques, c'est justement d'interroger le chant. Et le chant, donc récemment, il y a quelques études qui sont sorties, qui montrent effectivement qu'on a une augmentation de l'épaisseur corticale dans les régions qui représente toute la chaîne laryngée. C'est ce qui est intéressant pour nous au niveau du chant, c'est qu'évidemment, les instrumentistes, il y a beaucoup d'instruments assez asymétriques. Donc les doigts du violoniste, évidemment, souvent les doigts de la main gauche, donc ça a une représentation dans l'hémisphère droit, parce que c'est contralatéral. Et pour les chanteurs, effectivement, on se pose la question dans quelle mesure, éventuellement, il ne peut y avoir des effets de latéralité. Est-ce qu'un chanteur fonctionne au niveau de son cerveau?
Est-ce que vous chantez symétrique ou pas, Nathalie Dessay?
Est-ce qu'il y a une vraie symétrie?
Moi, je n'ai pas l'impression. Mais pourtant, si. Enfin, c'est intéressant, cette question, parce que très souvent, quand on est droitier, en tout cas, on se sert de la main droite quand on fait nos exercices. Beaucoup plus que de la main gauche, en tout cas chez moi c'est comme ça, pour spatialiser la musique. Enfin, chez moi c'est très, très prégnant cette méthode.
Et ça pourrait jouer aussi sur la représentation que le cerveau en donne.
Effectivement, clairement, parce que ça, ce sont des stratégies effectivement d'apprentissage, etc. Et on voit très très bien que ça modifie la manière dont le cerveau fonctionne. Et évidemment, ça le modifie intrinsèquement.
Mais Nathalie Dessay, lorsque vous chantez cela par exemple...
Son destin.
Lorsque donc vous chantiez l'air de la Reine de la Nuit, Nathalie Dessay, alors je ne vais pas vous demander ce qui se passait dans votre cerveau, évidemment, parce que vous ne le savez pas,
non.
Mais peut-être que Hervé Platel aura des réponses, mais qu'est-ce que vous ressentiez en tout cas, d'un point de vue émotionnel
C'était pas émotionnel, c'était technique. Hein. On pense surtout à sa technique dans ces moments-là. En fait, on a toujours l'impression que les gens qui font de la musique sont dans une espèce d'extase par rapport à ce qu'ils font. C'est pas vrai du tout. On est dans une concentration énorme. Et en fait, le plaisir, il est pour l'auditeur en principe,
alors,
pas pour nous.
C'est ça. Ouais.
Enfin, c'est pas désagréable de chanter, mais chanter des trucs comme ça, c'est vraiment pas marrant.
Donc ça préoccupe plus qu'autre chose
hein. Ah oui, enfin, oui. C'est-à-dire que normalement, quand vous chantez cet air-là, c'est que vous avez les notes, donc vous n'avez pas peur de ne pas les atteindre. Mais il y a quand même un stress, parce que c'est une performance, c'est comme un trapéziste qui va faire son numéro, il sait qu'il sait le faire, mais c'est pas pour ça qu'il est complètement sans peur quand il y va, quoi.
Ouais. Hervé Platel, alors ça c'est intéressant aussi, le spectateur, l'auditeur et le chanteur, il se passe pas du tout la même chose donc,
pas du
dans leur
même
cerveau.
Chose. Et justement, c'est intéressant aussi de considérer, il y a des travaux qui ont montré effectivement que chez les enfants qui apprennent la musique, il se passe des choses donc dans leur cerveau et qu'éventuellement ça peut avoir des conséquences dans leur performance, dans les apprentissages. Mm-hmm. Et certains ont l'hypothèse que, évidemment, ces gains étaient liés aussi au côté hédonique de la musique, au plaisir qu'on pouvait avoir à apprendre la musique. Moi, ça me laisse rêveur, ce
Moi
type
aussi,
de,
parce que
d'hypothèse,
en plus,
parce que franchement, si on pense aux danseurs de ballet, si on pense aux musiciens en conservatoire, il est de temps en temps dans le plaisir, heureusement, oui. Mais quand même, l'apprentissage, c'est pas que du plaisir. Donc, c'est au-delà de ça. Et c'est vrai que il y a des questions tout à fait différente entre ce qui se passe dans le cerveau de l'expert et évidemment ce qui se passe dans le cerveau du récepteur, donc du mélomane.
Mais il se passe quelque chose, parce que ça aussi c'est intéressant de l'observer, quand on écoute de la musique, alors ça pour le coup en laboratoire c'est facile à observer, il se passe quelque chose de très concret dans le cerveau.
Ben, c'est clair que, en fait, l'écoute de la musique, ce qu'on recherche, et donc Nathalie Dessay, c'est une professionnelle de la musique, mais en même temps, c'est un auditeur de temps en temps. Et donc, en tant qu'auditrice, quand elle écoute de la musique, elle va avoir un cerveau qui va fonctionner comme un autre auditeur. Heureusement, d'une certaine manière. Alors, peut-être que, évidemment, on peut, là, après, aller chercher la petite bête en disant, oui, les musiciens professionnels, est-ce qu'ils n'écoutent pas la musique différemment? On a beaucoup parlé, notamment, de l'oreille absolue et qui changeait le mode d'écoute de la musique. Ça, c'est vrai. On a des stratégies d'apprentissage qui fait que, on n'écoute plus la musique, forcément, de la même manière, comme un peintre expert ou quelqu'un qui est expert en art regarde un tableau de peinture et ne verra pas tout à fait la même chose. Il sera touché émotionnellement différemment que, peut-être...
C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'un expert un tableau, il verra plus de choses. Comme nous, on va entendre plus de choses. On ne va pas entendre une masse globale, on va entendre plein de détails.
Oui, mais est-ce que... notre question, elle est intéressante, c'est en définitive le phénomène du frisson musical. Est-ce qu'on l'observe plus fréquemment chez des professionnels de la musique ou éventuellement chez des personnes qui sont peut-être moins professionnelles? Et ça, c'est une question intéressante.
Ouais. Est-ce que vous décrivez Nathalie Dessay, justement sur ces détails, vous, que vous entendez, est-ce que c'est le cas pour toutes les musiques, même celles qui vous sont moins familières?
Ah non, moi, il y a des musiques que j'aime pas.
Ouais.
Non, moi, la musique qui n'est pas sophistiquée, je n'aime pas. La musique qui ne comporte que deux accords, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais l'écouter, mais elle ne va pas me toucher. Moi, ce qui va me toucher, c'est la musique compliquée, la musique raffinée. Et pas seulement la musique classique, d'ailleurs.
Ouais.
Ça peut être le jazz... et toutes les musiques qui vont avoir des mélodies, des harmonies riches, en fait.
Et là aussi, Hervé Platel, est-ce qu'il y a un aspect culturel sur la façon dont le cerveau réagit à l'écoute de la musique, sur quelque chose de plus classique, on va dire, ou de très contemporain, moins habituel?
Forcément, puis il y a des différences interindividuelles au sein d'une même culture par rapport à l'exposition qu'on a eue à la musique. Et là, je dirais que c'est une généralité qu'on peut dire pour l'art, effectivement. Plus on est exposé tôt, effectivement, à l'art, plus on peut avoir une curiosité aussi, et augmenter, la complexité de ce qu'on est à même de comprendre.
Un courriel de Jacques qui nous dit ceci au sujet de la musique, donc ces personnes qui ne perçoivent pas correctement la musique, qui nous dit ceci, pour avoir assez souvent croisé Pierre Boulez, je me souviens de son beau-frère qui n'entendait rien de toute musique, l'antique harmonie des sphères ne toucherait donc pas tout le monde.
C'est clair que non. On estime que 4 à 5% de la population générale, sans anomalie cérébrale, n'est pas capable de décoder correctement la hauteur fondamentale des notes, c'est-à-dire ne fait pas la différence entre un là, un si, etc. Ouais. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas corrélé avec le niveau de culture et forcément avec le bain dans lequel les gens ont été. Donc Bernard Le Chevalier, qui est mon maître à Caen, sur ses travaux en musique et cerveau, avait un collègue neurologue, bon quand même neurologue, c'est pas, niveau de culture quand même minimum, il disait que lui, il était incapable de reconnaître le moindre air musical, même la Marseillaise, il disait que je sais que c'est, qu'on joue la Marseillaise parce que je vois que les gens se lèvent.
Ouais.
Donc clairement, ça nous paraît incompréhensible de dire mais comment ça marche dans leur cerveau. Eh bien, c'est des gens, effectivement, qui ne décodent pas les différences de hauteur. C'est comme si je vous présentais des lignes, en fin de compte, pour faire un dessin. Normalement, ça représente le dessin d'une chaise. Vous vous dites, bien sûr, c'est une chaise. Et eux, non, ils n'arrivent pas à assembler ces informations.
Khaled Ezzedine, je crois que vous souhaitez intervenir depuis Bordeaux.
Oui, parce qu'en fait, je suis assez touché par ce qui est dit là. Ça voudrait aussi dire peut-être qu'il y aurait un trouble spécifique, je reviens sur le domaine de la maladie, je suis désolé, on ne se refait pas, et que peut-être que cette population-là, il faudrait la regarder d'un point de vue presque médical, parce qu'au fond, ce n'est pas du tout lié à la culture, c'est peut-être lié à un défaut de fonctionnement du cerveau.
C'est vrai, c'est ce qu'on se dit aussi.
Alors,
ouais.
Non, c'est ce qui va être justement expliqué notamment par Barbara Tillman, qui est directeur de recherche au CNRS. La première journée, qui a fait beaucoup de travaux sur ces amusiques, et on commence à avoir des hypothèses sur ce qui se passe, un peu des hypothèses de type problème développemental dans le cerveau, un peu comme la dyslexie.
On va écouter un petit air de la chauve-souris quand même. C'est la voix du printemps de Strauss, Nathalie Dessay, qui m'a repris.
Non, parce que je ne l'ai pas enregistré.
J'ai la spécialiste et l'interprète à côté de moi et je fais la boulette. Voilà. Est-ce que là aussi c'est pareil, c'est la même sensation au fond qu'avec la Reine de la Nuit, sur la préoccupation que vous décriviez tout à l'heure sur ces notes.
Oui, alors d'autant que là c'est un souvenir particulier parce que, bon, ça je l'ai enregistré après, mais la première fois que je l'ai chanté un soir de 31 décembre à Vienne et je l'avais appris dans la semaine. Ouais. Donc là il y avait...
Mais c'est festif le 31 décembre à Vienne.
Oh oui, c'est festif, sauf pour moi qui savais à peine les paroles et qui me disait pourvu que je ne me trompe pas. Parce que c'était quand même très très neuf et j'avais quand même l'intention de faire ces notes stratosphériques parce que je savais que je pouvais les faire et c'était drôle.
Guillaume demande sur Twitter quelle est l'influence de la musique, du chant sur le cerveau des bébés. Alors ça c'est une question que je voulais vous poser, vous peut-être Nathalie en tant que maman. Est-ce que vous avez beaucoup chanté
moi,
à vos enfants?
Moi j'ai chanté quand ils étaient dans mon ventre, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, vous ne chantez pas quand même de l'opéra dans les oreilles d'un nourrisson?
Pas forcément de l'opéra, une petite balade.
Oui, non, bah, du coup, ça n'a plus trop... Enfin je sais pas.
Non.
Mais oui, j'ai chanté un petit
peu. Parce qu'il y a des études là-dessus aussi. Sur la réception aussi des bébés, entre la voix parlée ou la voix chantée de la maman.
Oui, alors dans les deux cas, on sait qu'effectivement l'exposition prénatale, bon, le bébé reconnaît la voix de sa mère, c'est bien connu, et aussi un certain nombre d'informations sonores de son environnement, et notamment des petites mélodies qu'il aurait entendues. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fin de compte, les bébés qui sont exposés à de la musique, et puis après les gens qui font des études musicales, peuvent conserver une finesse de perception auditive telle que ça va leur donner un avantage pour apprendre une deuxième langue, une langue étrangère. Et donc, même si on arrête de faire de la musique, mais qu'on en a fait dans notre jeunesse, qu'on a eu une bonne exposition, on peut conserver dans notre cerveau ce gain-là.
Hervé Platel, pour terminer, est-ce qu'on a étudié le cerveau des chefs d'orchestre, qui souvent d'ailleurs atteignent des âges assez vénérables quand même
C'est-à-dire qu'ils font jouer les autres, alors ils n'ont pas besoin de...
C'est reposant.
Oui. Ils sont toujours là, ils tiennent debout en tout cas.
Oui.
Non, mais c'est vrai que c'est une activité très particulière, et là, on ne peut pas comparer ce qui se passe dans le cerveau d'un chef d'orchestre, dans le cerveau d'un soliste, etc. Mmh. Je pense que ce sont des activités tout à fait différentes, mais c'est passionnant du point de vue de la mémoire, et c'est vrai qu'on aurait pu discuter beaucoup, effectivement, sur le problème de la mémoire, la musique. Nous, ça nous intéresse énormément.
Et la santé.
Est-ce que la musique peut nous aider à avoir une meilleure mémoire? C'est pas très évident, parce qu'en définitive, ça nous aide, je dirais, dans un domaine particulier. On voit que chez les patients Alzheimer, d'Alzheimer, la mémoire musicale est conservée, c'est pas pour ça que leur mémoire verbale se maintient. Ouais. Et donc la dissociation langage-musique, elle est très très forte et jusqu'au bout. Moi j'ai beaucoup de mal à retenir les paroles, même des propres chansons que j'ai écrites.
Ouais. Moi c'est pareil, les paroles c'est l'horreur.
Allez, on se quitte avec les contes d'Hoffmann.
Est-ce qu'on a fait des études sur les batteurs? Parce que là, il y a dissociation. Oui,
Nathalie Dessay ne s'écoute pas du tout, ça ne l'intéresse
non,
pas
non,
de s'entendre.
Non, je ne passe pas.
Voilà, Nathalie Dessay, les contes d'Hoffmann, pour terminer cette discussion. Et puis on vous retrouvera donc samedi prochain, 14 mars. C'est toute la journée, Hervé Platel.
Oui, Nathalie sera présente donc l'après-midi.
Ouais.
Voilà. Et je la remercie beaucoup de jouer ce rôle de marraine la bonne fée et de Candide
et de
pour cette première édition.
Il y aura
plein
de questions à vous poser avec le public. On peut s'inscrire sur le site à disposition, c'est musique-santé.org,
voilà,
qui est en lien sur La Tête au Carré, évidemment. Puis il y a deux autres rendez-vous, deux autres mouvements.
Si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place.
Nathalie, c'est dans une heure et demie votre émission classique.
Absolument.
Avec Dessay, Beaux-Arts, Trio 3. Hein,
oui, absolument, on a fait un petit feuilleton.
Voilà, à tout à l'heure collègue, merci beaucoup.
Way and the wind blows outside. Before you break-
Indie Zara sur France Inter avec Any Story.
Le club au carré sur France Inter.
On va parler du kilo dans quelques minutes et puis le vitiligo avec vous, Khaled et Zedine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux, professeur associé de dermatologie au CHU de Bordeaux et au Centre National de Référence des Maladies Rares de la Peau. Et vous êtes en train de publier, de travailler sur une étude nationale sur l'impact du vitiligo sur les personnes qui en sont atteintes. Dites-nous évidemment de quelle pathologie il s'agit. Tout le monde ne connaît pas cette maladie.
Alors le vitiligo, c'est une maladie qui laisse des taches blanches sur la peau, qui enlève le pigment de la peau, qui la rend complètement claire, un peu plus sensible au soleil probablement de par sa clarté, et qui est une maladie avec probablement une composante auto-immune et une composante génétique qui touche à peu près 1% de la population en France.
Et qui touche l'ensemble du corps,
qui peut toucher l'ensemble du corps. Il y a plusieurs formes de vitiligo. La forme la plus grave, c'est la forme généralisée. Il y a des formes segmentaires, mais comme toutes les maladies qui ne touchent qu'une partie du corps, et celle-ci, a priori, on arrive à la traiter assez bien. Et puis il y a l'autre forme, qui est la forme généralisée, qui peut toucher n'importe quelle partie du corps, mais surtout qui a une évolution imprévisible, qui peut être très calme pendant des années, et puis tout d'un coup se mettre à évoluer et à dépigmenter complètement le corps.
Qu'est-ce qu'on sait de l'origine de la maladie, de la façon dont elle survient ?
Alors, il y a une base génétique dans le vitiligo, ça maintenant c'est assez clair. Il y a une quinzaine de gènes qui ont été identifiés. On a participé à une étude américaine et la plupart de ces gènes sont des gènes d'auto-immunité. Il y a aussi des gènes d'adhésion des mélanocytes qui sont les cellules qui donnent, qui fabriquent le pigment, qui pourraient être touchées. Ça c'est une partie qui est en train de se faire pour l'instant. Et c'est la maladie pour laquelle on a le plus d'évidence d'auto-immunité. Et ça, c'est vraiment le principal. Ce qui peut la déclencher très souvent, comme toutes les maladies auto-immunes, elles sont un peu conditionnées par le stress. Et le vitiligo est très souvent, dans presque un cas sur deux, déclenché après un fort stress affectif. Mais je parle pas du stress du quotidien, je parle d'un stress qui bouleverse la vie, la mort d'un être cher, une séparation. Ou pour un enfant, tout simplement un déménagement ou des choses comme ça.
Alors, ça n'est pas une maladie considérée comme grave, puisque ça ne met pas en jeu le pronostic vital d'une personne, mais il faut évidemment parler des souffrances énormes du point de vue psychologique, parce que c'est une maladie qui impacte très réellement la qualité de vie des gens qui en sont atteints, et vous êtes justement en train de publier cette étude à la demande de l'Association française du vitiligo, je crois, hein.
Avec l'Association française du vitiligo, absolument, qui est une association extrêmement dynamique, qui nous a beaucoup aidés dans le recrutement des patients, qui a vraiment fait un travail remarquable. Je trouve que cette association mérite vraiment d'être connue. Et je pense en plus que les patients ne savent pas tous qu'elle existe. Alors nous, on fait évidemment notre travail. Le problème, c'est qu'on n'est pas nombreux à s'intéresser au vitiligo en France.
Oui, c'est vrai.
Et qu'on lance un appel là-dessus. Mais voilà, c'est une étude qui était nécessaire, je crois, parce que vous dites que c'est une maladie qui n'est pas considérée comme grave. Mais quand on regarde la définition de la gravité d'une maladie, ou la définition de la maladie par l'OMS, c'est ne pas se sentir bien, être malade. Et les gens qui ont du vitiligo ne se sentent pas bien.
Alors, qu'est-ce qui ressort déjà des premiers résultats, puisque l'étude n'est pas terminée, elle est en cours? Qu'est-ce que vous remarquez?
Alors, ce qu'on remarque, c'est que probablement la couleur de la peau peut influer sur la manière dont on perçoit la maladie, pas sur le fait qu'on est stressé ou que la maladie est mal vécue, parce que je pense que, quelle que soit la couleur de sa peau, la peau, c'est ce qu'on donne à voir, et quand on dépigmente, on peut comprendre que ce soit quelque chose de très fort, on perd son identité, en gros. Mais cette perception de cette perte d'identité, ce qui amène le stress n'est pas exactement la même chose. Et là, dans les résultats préliminaires qu'on a, on a à peu près 21 questions qui sont ressorties, qui sont identiques chez les patients à peau claire et les patients à peau foncée. Et il y a des choses plus spécifiques aux peaux foncées, à environ 5 questions, et d'autres, par contre, qui sont plus spécifiques aux peaux claires. Les peaux foncées, par exemple, ont vraiment peur de l'image qu'ils donnent à leurs proches et de leur relation avec les proches. Alors que les patients à peau claire, eux, ce sera plus un sentiment de découragement vis-à-vis de la maladie.
Donc il y a des traits d'anxiété très différents en fonction de la nature de la peau, hein.
Exactement, il y a des traits d'anxiété différents, il y a une perception de la maladie différente, mais elles aboutissent tous en gros, tout le monde est déprimé quoi, avec le vitiligo. Les gens qui ont du vitiligo souvent, sont souvent très très affectés.
Alors, ce n'est pas le cas de Farah qui nous écrit « J'ai du vitiligo depuis 22 ans. Je veux encourager toutes les personnes atteintes à refuser ce fardeau en relevant un défi. Je vais traverser le Canada en vélo d'ouest en est. Comme quoi, le vitiligo ne m'a jamais stoppé. Vous pouvez m'encourager, me suivre sur Facebook. » Elle a un site qui s'appelle « Farah Biking Across Canada ». Premier coup de pédale le 16 mai à Victoria, en Colombie-Britannique. Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'on peut repigmenter?
On peut repigmenter, mais repigmenter ne veut pas dire guérir. Parce qu'on peut repigmenter, mais on peut aussi redépigmenter. Mm-hmm. Donc c'est une maladie chronique, comme toutes les maladies. Et je crois que Farah a raison. Un fardeau, ça ne doit pas empêcher de vivre. Ça fait qu'on le porte, mais ça peut être une force. Il y a beaucoup de gens qui réussissent très bien leur vie avec du vitiligo, et elle a raison.
Est-ce que vous serez présent aux rencontres annuelles du vitiligo qui auront lieu samedi prochain, et c'est aussi l'actualité autour de cette pathologie?
Alors, je serai bien évidemment présent à cette réunion où j'exposerai probablement les résultats de l'enquête. Mm-hmm. Et où je pourrai à nouveau, c'est un moment quand même très très fort de l'association parce qu'on rencontre les gens, qu'on discute avec eux, et évidemment que j'y serai. Oui.
Ce sera donc à la mairie du 9e arrondissement à Paris avec les chercheurs qui viendront faire état des connaissances, des recherches et des avancées. Le public est invité évidemment. Il faut s'inscrire en allant sur le site de l'association française du vitiligo, c'est afvitiligo.com. Ils ont également une page Facebook qui fonctionne très bien et un compte Twitter très dynamique, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous êtes concerné par cette pathologie. Merci beaucoup Khaled et Zedine, et donc la suite de vos travaux, hein, puisque évidemment l'étude se poursuit. Merci aux équipes de France Bleu Gironde. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Je marche, petite, peu importe où je vais, j'avance, petite. Je tangue, petite, mais ne me retiens surtout pas, petite. Je bois, petite, et putain oui, j'adore ça, petite. Je vis, petite, car chaque seconde est une histoire, petite. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse te file entre les doigts. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse, embrasse-la. Petite, que le jour se lève et pourtant, petite. Je danse, petite, sans savoir si j'en reviendrai, petite. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse te file entre les doigts. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse, embrasse-la. Je pleure, petite, car demain est si proche de nous. Petite, n'oublie jamais ce qu'on était, petite. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse te file entre les doigts. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse, embrasse-la. Cette belle jeunesse ne durera pas. Cette belle jeunesse, embrasse-la.
petite extraite de son nouvel album Joseph d'Anvers dans notre club des têtes au carré que nous terminons avec vous, Richard Davis, pour parler du kilo dans un instant. Hervé Platel, neuropsychologue, est resté avec nous. Vous êtes Richard Davis, consultant au Bureau international des poids et mesures. On parle du kilo alors que mercredi va sortir sur les écrans le film 1001 grammes de Ben Hammer, dont voici un extrait.
Madame, s'il vous plaît, je peux voir votre sac ? C'est le kilogramme national de la Norvège. Ouvrez-le, s'il vous plaît. Non, c'est impossible. J'ai pas l'autorisation. Il est fait du platinum, 90% et 10% iridium. On peut pas le toucher. Ça peut changer le poids. Ici, j'ai l'adresse de BIPM, le Bureau international de poids de mesure. Voici la personne de contact et le numéro de téléphone. Guillaume,
à destination du Marrakech.
C'est bon.
C'est bon. Merci.
Voilà ce film 1001 grammes, Ben Hammer, l'histoire de Marie, une scientifique norvégienne qui assiste à un séminaire sur le poids réel du kilo à Paris et qui, bien sûr, parallèlement à cette histoire, va connaître une histoire d'amour. Vous allez en savoir plus donc sur les écrans à partir de mercredi prochain. Richard Davis, vous étiez aux premières loges, hein, justement au BIPM pour voir le tournage du film. Ça s'est passé dans vos locaux ?
Oui, oui. C'était difficile de déceler le complot du film, ouais. Selon que j'ai vu. Mais maintenant que j'ai vu le film, c'est intéressant.
Vous comprenez ce qui s'est passé. Quelle est la mission de votre bureau des poids et mesures, justement, où se déroule l'intrigue ?
La mission, c'est d'assurer la compatibilité des mesures dans le monde, en fait. Mais on fait ça avec nos partenaires dans les pays membres. En fait, le Bureau international, c'est une organisation qui a été créée par la Convention du Maître, qui a été signée en 1875 et donc qui continue. Il y a maintenant plus de une cinquantaine de membres. Et donc, on travaille avec nos collègues pour assurer les meilleures mesures.
Qu'est-ce qu'il y a dans un kilo, alors, exactement ? Parce qu'on dit un kilo, mais qu'est-ce qui se cache sous un kilo ?
Un kilo de plume,
c'est un grand mystère.
Actuellement, la définition d'un kilo, c'est la masse d'un objet qui s'appelle le prototype international du kilogramme, qui est conservé au Bureau international des poids et mesures. Et c'est une définition qui date de 1889. Et donc, c'est très vieux, cette définition. Le problème, c'est que cette définition, il faut utiliser ce kilogramme pour étalonner les autres. Mais on a une peur que si on utilise trop ce kilogramme, on va perdre un peu de masse. Et,
donc, ça veut dire qu'il faut sans cesse le redéfinir,
hein? Donc, l'idée, c'est de refaire la définition par rapport à une constante de la nature qui existe dans le monde et qui n'est pas nécessaire de mettre dans un coffre-fort, dans un endroit
sécurisé
et tout ça.
Et alors, on utilise quoi précisément pour le faire en dehors donc de l'objet physique ? Qu'est-ce qu'on utilise comme méthode pour redéfinir le kilo ?
La définition sera par rapport d'une constante fondamentale qui s'appelle la constante de Planck, parce que ça fait plaisir aux scientifiques. mais la vraie question, c'est la réalisation. Avec cette définition, comment est-ce que je détermine le poids d'une bouteille d'eau, par exemple, ou le poids de n'importe quel objet? Et là, il y aura deux méthodes de le faire dans les grands laboratoires. Après, le système sera exactement comme le système actuel. Donc, c'est juste dans les grands laboratoires et pour les personnes qui ont besoin d'une précision
absolue
avec une stabilité garantie. Ouais. Et donc, il y a une méthode qui est faite par rapport à une balance spéciale qui s'appelle la balance de Watt et qui est... cette balance est étalonnée par... les mesures électroniques qui dépendent de cette constante de Planck. OK. Deuxième façon, c'est de faire une masse par rapport à une masse d'un atome. Et il y a un rattachement des masses des atomes à la constante de Planck. Donc, en gros, c'est deux façons.
Mais qui a besoin justement d'une telle précision autour du kilo? Ça sert à qui?
Ça sert à la recherche actuellement. Ça sert à stabiliser. Actuellement, on n'est pas sûr que le kilogramme d'aujourd'hui a la même masse que le kilogramme il y a un siècle.
Ah oui, ça aurait changé.
Mais par rapport de quoi? C'est par rapport à des constantes fondamentales.
Ouais.
Mais maintenant, on peut mesurer le kilogramme par rapport à des constantes fondamentales. Et donc, on va le faire. Deuxième chose, c'est pour la métrologie d'électricité. C'est très intéressant d'avoir des étalons des étalons quantiques qui marchent par rapport d'une valeur définie de la constante de Planck. Donc ça, c'est notre côté qui n'a rien à voir avec la masse, mais qui est important quand même.
Hervé Platel, combien ça pèse un cerveau en kilos, justement?
Oh,
là, on est moins précis.
Oui, on est moins précis parce qu'il y a une variabilité entre les individus, mais donc 1,2 kg à peu près. Donc, ouais. Voilà, c'est une moyenne.
Et comment on le pèse alors?
Il faut le retirer du crâne, ce qui n'est pas une opération simple. Hein.
C'est vrai.
Non, parce que le cerveau, c'est quand même donc un organe extrêmement fragile qui se périme très très vite. Donc, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'au fil des siècles, il a fallu beaucoup de temps pour arriver à observer de manière efficace le cerveau.
Ouais.
Et moi, j'avais une question. Mais quand on parle d'un objet qui mesure 1 kg, est-ce qu'il mesure toujours 1 kg si on est dans le vide de l'espace? Ça change quelque chose ou pas?
Non. Masse, c'est constante. C'est le poids qui peut changer, mais la masse,
voilà, est toujours la masse reste constante.
Oui. En tout cas, on en saura peut-être plus à la prochaine conférence des poids et mesures. Ce sera en 2018 exactement. Et entre-temps, on peut aller donc au cinéma pour voir où vous travaillez, pour suivre cette histoire intéressante autour du kilo 1001 grammes de Bent Hammer. Et ce sera donc mercredi sur les écrans. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis un grand remerciement également pour terminer cette émission à notre stagiaire Fanny Cohen-Moreau qui a passé 2 mois dans l'équipe, qu'on embrasse très chaleureusement. C'est elle, entre autres, qui a préparé les dossiers, géré le compte Facebook et Twitter de l'émission. Elle a fait ça de main de maître et on l'embrasse très affectueusement.